Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcy, les Saloua Jafari, bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition du lundi 29 juin 2015. À la une ce soir.
Burundi, le pouvoir organiser les élections législatives et communales sous haute tension malgré les pressions de l'opposition et les mises en garde de la communauté internationale.
Au Tchad, arrestation de plusieurs membres présumés de Boko Haram, 2 semaines après un double attentat sans précédent à N'Djamena.
Affaire Hissène Habré, au Sénégal, plus de 4000 victimes seront parties civiles.
Nous reviendrons ce soir sur la grève des médecins du public et du privé au Gabon.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Élections législatives et municipales ce lundi au Burundi, un scrutin boycotté par l'opposition après plusieurs semaines de violence déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza, fin avril, de briguer un troisième mandat. Georges Léonard Sagnot.
Avant l'ouverture des bureaux de vote, des coups de feu ont été entendus dans la capitale Bujumbura. De nombreux bureaux de vote ont ouvert en retard. L'Union africaine a retiré ses observateurs dimanche, estimant que le scrutin ne pouvait se tenir dans des conditions de liberté et d'équité satisfaisantes. La participation, plus que le résultat, est la grande inconnue du scrutin. L'opposition boycottant l'ensemble de ces élections générales, largement condamnée par la communauté internationale. À la mi-journée, Pierre Claver Ndayikariye, président d'une commission électorale accusée d'être aux ordres du pouvoir, assurait que la participation était massive à travers tout le pays. Mais aucun chiffre officiel n'était disponible et plusieurs bureaux refusaient de communiquer leur taux de participation. Cette mobilisation massive était même loin d'être évidente à Bujumbura, signale l'agence France Presse. Quelques 3,8 millions d'électeurs, selon les autorités, étaient appelés aux urnes pour ce scrutin proportionnel à un tour.
La présidente de transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a officiellement lancé aujourd'hui les opérations de recensement électoral dans la perspective d'une présidentielle et de législative annoncée pour le 18 octobre dans son pays. Cet enregistrement doit s'achever le 27 juillet dans un pays où les infrastructures routières sont dans un état déplorable et où les bandes armées sévissent toujours dans certaines régions. Il doit permettre de doter les électeurs d'une carte permettant de participer à la présidentielle et aux législatives prévues le 4 octobre.
Plusieurs membres présumés de Boko Haram sont entre les mains des autorités tchadiennes 2 semaines après un double attentat sans précédent à N'Djamena. La dernière arrestation fait suite à une opération de la police tchadienne ce lundi contre des hommes du groupe islamiste nigérian opérant dans la capitale du Tchad. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été tuées dans cette opération. Au micro de Jacques Aristide, écoutez les précisions du ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi.
Oui, il s'agit effectivement d'une descente de police dans une maison suspectée, abritée des terroristes et 6 terroristes qui ont fabriqué leur engin mortel. À l'arrivée des policiers, ils se sont fait exploser. Dommage, nous déplorons 5 policiers et 6 terroristes aussi. Il était au total 7. Le 7e est blessé. On lui a prodigué les soins appropriés. Il est à la main des forces de défense et de sécurité.
C'était au cours d'une opération de la police tchadienne contre des membres présumés de Boko Haram à N'Djamena.
Absolument. Il faut également se rappeler que hier dans l'après-midi, nous avons pris les coordinateurs des cellules Boko Haram qui coordonnent entre le Tchad, Cameroun, Niger et le Nigeria. À la suite des enquêtes que nous sommes aboutis à cette concession qui nous a été orientée, il y a également des ceintures explosives et d'autres engins qui ont été découverts.
C'était le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi, joint à N'Djamena.
La Tunisie a annoncé lundi de premières arrestations en lien avec l'attentat de la semaine dernière contre un hôtel en bord de mer à Sousse. Michel Zouzef.
Le ministre tunisien de l'Intérieur a annoncé lundi l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de lien avec l'homme qui a tué 39 personnes vendredi dernier, en majorité des touristes britanniques. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Nous avons commencé par arrêter un premier groupe, dont le nombre est important, du réseau qui était derrière ce criminel terroriste, a dit Najim Garsali. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si le tueur a reçu un entraînement dans des camps djihadistes en Libye. M. Garsali s'exprimait lors d'un point de presse aux côtés de ses homologues français Bernard Cazeneuve, allemand Thomas de Maizière et britannique Theresa May. Il n'a pas précisé le nombre ou l'affiliation des personnes arrêtées. Les ministres allemands, français et britanniques de l'intérieur se sont rendus ce matin dans l'hôtel où l'étudiant de 23 ans, Sefedine Rezgi, a ciblé ses victimes avant d'être abattu.
Affaire Hissène-Habré au Sénégal, plus de 4000 victimes seront parties civiles au procès de l'ex-président tchadien prévu à partir du 20 juillet à Dakar. C'est ce qu'affirment leurs avocats. Hissène-Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Il sera jugé par les chambres africaines extraordinaires. Le tribunal spécial au Sénégal, 100 témoins sont également attendus à la barre. Les preuves qui seront présentées sont solides, surtout les documents de la police politique tchadienne qui démontrent le lien direct de supérieur à subordonné entre Habré et ce service, assurent les avocats.
Le procureur général d'Égypte a été tué aujourd'hui dans un attentat. Son convoi a été attaqué au Caire un mois après l'appel du groupe djihadiste État islamique à s'attaquer au corps judiciaire pour venger l'exécution de ses partisans. Hicham Barakat est le plus haut représentant de l'État, tué en représailles à la violente répression qui s'est abattue sur les islamistes depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino Léon, a indiqué aujourd'hui que les délégations des parlements rivaux qui ne sont pas parvenus à un accord dans la nuit d'hier à aujourd'hui seraient de retour au Maroc d'ici jeudi, affichant à nouveau son optimisme. De nouveau réunis depuis jeudi à Skhirat, dans le nord-ouest de la Libye, les délégations représentant ces deux parlements ont tenu pour la première fois des discussions directes dimanche, mais ont échoué à signer un protocole d'accord pour la formation d'un gouvernement d'union.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Grèce au bout du gouffre, la Grèce, le grand saut dans le vide. Des titres qui ont fait la une ce matin devant le refus des créanciers de prolonger leur assistance. Le gouvernement grec a décrété une fermeture des banques du pays et l'instauration d'un contrôle des capitaux. Athènes a aussi appelé un référendum le week-end prochain dont l'issue pourrait décider de son appartenance à la zone euro. Les explications. C'est ce qu'on pourrait appeler le début de la fin. Dimanche, la Grèce a fermé ses banques pour éviter les retraits massifs. Elle a fermé sa bourse. Un signe qui ne trompe pas, Athènes pourrait bientôt se couper de l'Union monétaire européenne. Et puis, ça sera la chute libre, prédisent les économistes, avec la paralysie de l'économie. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, visiblement remonté, parle de trahison et demande aux Grecs de reconsidérer.
Je dirais aux Grecs que j'aime profondément. Il ne faut pas se suicider parce qu'on a peur de la mort.
Le gouvernement d'Alexis Tsipras a aussitôt répondu, doutant de la sincérité de Juncker. Angela Merkel tempère. Elle a affirmé que l'échec de l'euro serait celui de l'Europe et l'appelle au compromis. Mais le ras-le-bol allemand est ressenti dans sa presse. Le Süddeutsche Zeitung a titré aujourd'hui « Cette fois Berlin ». Est vraiment en colère. Le président Alexis a appelé un référendum le week-end prochain, un vote qui pourrait décider de l'avenir de la zone euro.
État libre associé aux États-Unis, l'île de Porto Rico dans la mer des Caraïbes est aujourd'hui au bord du précipice. Impossible de repayer sa dette, chiffrée à environ 72 milliards de dollars pour une population de seulement 3 600 000 habitants. Le point avec Camille Grosdidier.
Tout comme la Grèce, Porto Rico est acculé au mur et le gouverneur du territoire crie bien haut qu'il se rapproche du défaut de paiement. Interrogé par le New York Times, il a évoqué une spirale de la mort, la dette du territoire étant impayable à son avis. Porto Rico étant rattaché aux États-Unis, le territoire ne saurait dévaluer sa monnaie, le dollar américain. Des fonds spéculatifs prêts à prendre des risques en échange de taux d'intérêt très élevés sont aujourd'hui les principaux créanciers de la dette portoricaine. Depuis plusieurs mois, ils travaillent sur un plan B pour sauver l'île, dont les coffres sont vides, le chômage y explose, la criminalité croît et plus de 4% de la population a quitté le territoire ces quatre dernières années, signale l'agence France-Presse. Les agences de notation ont placé les obligations de Porto Rico dans la catégorie des junk bonds, c'est-à-dire les obligations pourries jugées à haut risque.
Les discussions sur le programme nucléaire iranien se poursuivent au niveau des experts en attendant la reprise des échanges entre les dirigeants politiques du groupe 5+1 et de l'Iran. Les deux parties ont convenu qu'elles ne pourront pas respecter la date butoir du 30 juin pour la signature d'un accord définitif. Elles ont toutefois assuré qu'il n'y aura pas un long report et qu'une entente devrait être trouvée pendant ce round de négociations à Vienne.
Israël a boycotté aujourd'hui à Genève une session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur un rapport accusant Israéliens et groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes de guerre lors du conflit à Gaza à l'été 2014. Selon un bilan établi par l'ONU, environ 2200 Palestiniens et 73 Israéliens ont été tués lors de cette guerre. Alors que les Palestiniens ont salué le rapport, Israël l'a rejeté et a accusé le Conseil d'être politisé. L'AFP signale la présence aujourd'hui par ailleurs de plusieurs centaines de personnes devant le bureau des Nations Unies à la demande du Congrès juif mondial pour apporter leur soutien à l'État hébreu.
Le groupe État islamique marque le premier anniversaire de ce que son chef Abu Bakr al-Baghdadi appelle le califat, allant de l'est de la Syrie au nord et à l'est de l'Irak. Cette région est devenue l'une des plus dangereuses du monde et le centre d'une campagne internationale contre l'extrémisme islamiste. Durant les 12 derniers mois, les djihadistes ont multiplié leurs attaques contre les deux pays et se sont fait remarquer par l'exécution d'otages étrangers et de soldats ennemis. Ils sont parvenus à contrôler de larges pans de territoire, notamment la grande ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak.
Le second des deux meurtriers en cavale depuis le 6 juin dans l'État de New York, David Sweat, est aujourd'hui hospitalisé dans un état critique. Il a été blessé par balle hier avant d'être capturé à 3 km de la frontière canadienne. Son co-détenu Richard Matt a été tué vendredi lors d'un échange de tirs avec la police. Les deux hommes s'étaient évadés d'une prison de haute sécurité avec l'aide présumée d'agents pénitentiaires. Le cauchemar est finalement passé, a déclaré à la presse le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco ce soir.
Avec Lionel Gaïma.
Lancement de la construction du centre de mission du satellite de l'Angola. Angosat 1 sera situé dans la localité de Funda, dans la municipalité de Kakuako, près de la ville de Luanda. Ce projet sera géré directement par le ministère angolais des télécommunications et des technologies de l'information et le projet sera mis en route la semaine prochaine. Une nouvelle raffinerie d'huile de palme verra bientôt le jour au Cameroun. Avec une enveloppe initiale d'environ 5 millions de francs CFA, le Cameroun s'apprête à construire une nouvelle raffinerie d'huile de palme qui sera baptisée Raffinerie Pacifique. Destinée principalement à la transformation et à la commercialisation de l'huile de palme, cette usine devrait aussi assurer la fabrication de quelques produits dérivés tels que la margarine, les bougies, le lait de toilette, le savon. Le Ghana veut encourager l'utilisation de l'énergie solaire. Pour sortir de la crise énergétique qui frappe le pays ces dernières années, le ministre ghanéen de l'énergie, Kwame Dankor, a rappelé la nécessité d'adopter les différentes solutions mises à la disposition par le solaire en termes d'énergie. Dans ce cadre, une installation dotée d'une capacité de production de 10 MW devrait bientôt être prête et sera mise en service d'ici le mois de septembre. L'usine en question devrait réduire le coût des panneaux qui seront ainsi plus accessibles à la population.
Merci Lionel pour la Minute Éco.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive. Camille Gros-Didier, heureux de vous retrouver en studio.
Eh bien, ce lundi, on signalait que le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, Gus Hiddink, sous pression car l'équipe nationale est en ballotage défavorable pour l'Euro 2016, va quitter ses fonctions. C'est du moins ce qu'ont indiqué lundi soir les médias néerlandais. Des sources anonymes au sein de la fédération néerlandaise ont dit que l'assistant de Gus Hiddink, Danny Blind, le remplacera directement, ont annoncé plusieurs publications. L'annonce officielle de cette démission devrait intervenir soit tard ce soir, soit mardi matin, selon ces mêmes sources. Troisième du dernier mondial, la formation orange n'a toujours pas effacé les doutes quant à ses possibilités de rejoindre l'euro. Elle est troisième de son groupe, derrière l'Islande et la République tchèque.
tennis maintenant. Eh bien, à l'instar de Serena Williams, Maria Sharapova n'a pas tremblé pour se hisser au deuxième tour de Wimbledon ce lundi, victorieuse en 2-7, 6-2, 6-2 face à Joanna Konta. La Russe est parfaitement rentrée dans son tournoi.
Romain Dorcy, les Salois Jafari en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Bénin.
Et oui, les Béninois étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs représentants au sein des conseils municipaux, communaux et locaux. Le vote a été suspendu dans certaines localités sur instruction du président de la commission électorale pour défaut de logo de certains partis et alliances de partis politiques sur le spécimen dans le centre du pays. Sur le déroulement de cette journée électorale, voici le reportage de Peggy Ludovic Dagpa, correspondant de la VOA Afrique à Cotonou.
Les municipales, communales et locales, retardées depuis plus de 2 ans, se sont finalement tenues ce dimanche 28 juin 2015 sur toute l'étendue du territoire béninois. Et malgré la pluie qui s'en est mêlée, les opérations ont démarré à l'heure dans la plupart des bureaux de vote visités. Voici la situation à Kpaou, localité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Cotonou, avec le coordonnateur de la zone pour la Commission électorale nationale autonome.
Le premier poste de vote a démarré autour de 7h05. Le scrutin doit démarrer à 7h, c'est ce que prévoit la loi. Mais lorsque vous voyez le temps qui fait manifestement maintenant, vous vous rendez compte quand même que si le premier a démarré à 7h05, on serait incriminé. Ces 5 misérables minutes de retard.
Ouida, cité chargée d'histoire, située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. Après Pau, les électeurs se sont bien comportés dans les bureaux de vote, selon Albert Dossuovo, observateur de la société civile à cette élection.
Tout est bien qui finit bien. Les élections se sont déroulées tant bien que mal. Il y a eu plus de peur que de mal. Donc c'est heureux que Ouida s'en sort gagnant. Parce qu'après tout, c'est la commune qui doit en principe nous préoccuper ici à Ouida, nous Ouidaniers. Et surtout la société civile est dans une démarche de climat de paix. Et ce climat de paix a existé aujourd'hui. La plus s'en est mêlé, mais ça n'a pas tellement empêché les gens de sortir. Ça aurait été mieux, mais c'est pas mal.
La plupart des votants rencontrés sont contents d'avoir accompli leur devoir civique. Pour une fois, ils n'ont pas trop critiqué l'organisation.
L'impression d'avoir accompli un devoir civique, je suis venu voter sous la pluie, donc la nature a béni l'acte. Bon, c'est fluide, c'est bien organisé, c'est bien fait, j'ai rien à redire.
J'ai déjà voté autour de 11h dans une ambiance conviviale. Mes impressions sont très bonnes. Au cours de la campagne, tout le thème a épaté le public et nous attendons à partir de 17h un bon résultat.
Très tôt ce matin, les populations sont sorties massivement. Déjà à 6h30, le vote a commencé chez nous ici et moi-même j'ai accompli déjà mon devoir civique. Tout se passe très bien.
Peggy Ludovic Dagua, Cotonou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Cap sur la République démocratique du Congo. La Conférence nationale des évêques de l'Église catholique lance un appel pour un report des élections locales et urbaines. Pour les évêques, qui appellent l'opposition au dialogue, le calendrier électoral doit être le seul point aux assises politiques initiées par le président Joseph Kabila. VOA Afrique a recueilli plus de détails dans cette interview que nous a accordé le porte-parole de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Léonard Saint-Eddy.
Le report des élections, c'est justement pour empêcher les glissements, parce que on va s'attaquer directement aux élections provinciales, législatives et présidentielles qui sont prescrites avec un délai constitutionnel et pas les élections locales, municipales et urbaines. Donc justement, parce que peut se dire sur comment se passe-là, les moyens, le budget et le temps. Voilà. Tandis que les dialogues, c'est pour justement avoir un calendrier consensuel. Le calendrier qui est là actuellement ne remporte pas les consensus de tout le monde.
Donc, vous lancez cette invitation à l'opposition qui n'accepte pas de venir au dialogue, accusant le gouvernement de vouloir l'utiliser comme un stratagème pour prolonger, c'est le terme qu'ils utilisent pour les glissements, pour prolonger le processus électoral.
Justement, si ce dialogue est vu pour les glissements, pour prolonger, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit qu'il ne faut pas le dialogue pour le dialogue. Les évêques, on peut promouvoir ce dialogue en définissant bien les objectifs et pour l'UPF évêque, c'est arriver à un consensus, à un calendrier consensuel et aussi examiner ce calendrier, mais aussi tout ce qui concerne le financement de ces élections. Voilà ce qu'ils disent. Donc, on est d'accord avec l'opposition qu'il ne faut pas déguisement, mais alors, pour cela, il faut dialoguer.
L'opposition dit, se référant à ce qui s'est passé dans l'histoire, qu'on peut convoquer les dialogues pour 3 mois, mais ça va faire 2-3 ans, comme ce fut le cas pour la conférence nationale. Donc là, ça serait justement faire les jeux de pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas de cet avis?
L'avis des pères évêques, c'est vraiment s'il doit y avoir un dialogue, c'est un dialogue circonscrit sur un problème précis, le calendrier électoral.
Si le gouvernement qui a initié les dialogues et a demandé qu'on discute du calendrier dit qu'il n'a pas le moyen pour organiser les élections locales maintenant, pensez-vous que le gouvernement aura des moyens pour organiser les élections présidentielles et législatives l'année prochaine?
Oui, il appartient au gouvernement d'organiser les élections. Pour cela, il doit d'abord dire clairement les moyens dont il dispose et le plan de décaissement.
L'abbé Léonard Saint-Eddy de la Conférence épiscopale nationale du Congo, joint par Eddy Isango.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Au Gabon, les médecins du public et du privé poursuivent leur grève. Déjà 3 semaines que ce mouvement a démarré en solidarité avec un médecin incarcéré après le décès de l'une de ses patientes suite à une césarienne. Pour mettre la pression sur le gouvernement, les médecins observent une grève générale illimitée. Conséquence, tous les hôpitaux publics et privés du pays sont fermés. Notre correspondant au Gabon, Jean-Rovis Dabani, s'est rendu dans le plus grand hôpital de la capitale gabonaise, le centre hospitalier universitaire.
Je suis là, je vois des patients arriver, puis on les refoule.
D'accord,
je sais pas pourquoi.
Vous croyez que vous serez reçu?
Je ne sais pas, je vais essayer de tenter pour voir, on ne sait jamais. Sauf que avoir le lieu, le cadre, il n'y a personne, on dirait.
Comme d'autres patients, Ghislain Awefege, assis à l'entrée de l'hôpital, attend patiemment pour présenter son bébé à un pédiatre. Après plusieurs heures d'attente, il a dû rebrousser chemin. Une grève des médecins entraîne depuis 3 semaines la quasi-paralysie des hôpitaux du Gabon. Quelques-uns des principaux hôpitaux du pays renvoient les malades chez eux en raison des mouvements de grève observés par les médecins. Solidaire de leur collègue, le docteur Maxi Filay Croué à la prison centrale de Libreville suite à une plainte déposée par la famille d'une patiente décédée après une césarienne pratiquée dans sa clinique privée. Au centre hospitalier universitaire CHU, seuls les soins essentiels sont assurés. Roselyne, une réceptionniste qui refuse de donner son identité pour éviter des représailles, affirme que l'hôpital ne prévoit plus de consultations depuis le début de cette grève.
Ici à l'accueil, nous recevons les malades, mais quand on les oriente chez les médecins, il n'y a personne pour les recevoir. Les médecins ne consultent pas. Donc, ils sont obligés de repartir. Ce n'est pas nous qui consultons, ce n'est pas tout l'hôpital qui est en grève, c'est les médecins.
Dans la vaste cour de cet hôpital, habituellement animé, la plupart des bancs sont vides. Seuls les patients les plus malades se donnent encore la peine de venir dans l'espoir de voir un médecin. Les autres patients ont renoncé et restent chez eux. Ghislain est l'un de nombreux Gabonais qui subissent les conséquences de la grève des médecins. Assis sur une banquette à l'entrée de la maternité, partiellement restructurée, Laure, sage-femme, dit comprendre la colère des médecins.
Oui, on comprend la position des médecins. Parce qu'aujourd'hui, c'est le médecin. Demain, ça peut être aussi une sage-femme ou encore même la fille de salle. Hein, parce que c'est le travail à la chaîne.
Le CHU est resté ouvert grâce à la réquisition des infirmiers. Les médecins, dont beaucoup gagnent en moyenne 500 000 francs CFA, réclament également l'augmentation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le docteur Stéphanie Loco est le porte-parole des grévistes.
C'est quoi le problème? Un monsieur qui a opéré une femme, qui a césarisé une femme, qui a sauvé 3 vies, et in fine, 3 jours après, l'une des 3 vies est morte, a été perdue. Même si on doit condamner cet homme-là, il faut quand même trouver des circonstances atténuantes. Est-ce que Dr Fila a été déjà jugé? Si Dr Fila a été jugé, vous savez qu'il y a des voies de recours. Mais qu'on juge Dr Fila, qu'on le condamne même, pour que nous revenions par la suite pour faire le recours. Pourquoi pas?
Les pourparlers entre le gouvernement et les grévistes ont abouti à une impasse. Le président Ali Bongo, critiqué pour sa gestion sur les questions sociales, avait indiqué il y a un an que beaucoup avait été fait pour les médecins. À Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Le groupe État islamique marque le premier anniversaire de ce que son chef Abu Bakr al-Baghdadi appelle un califat allant de l'est de la Syrie au nord et à l'est de l'Irak. Il faut dire que cette région est devenue l'une des plus dangereuses du monde et le centre d'une campagne internationale contre les extrémistes islamistes.
C'est une expansion de Daesh sur certains côtés, mais aussi ils ont eu des problèmes sur d'autres côtés. Ça reste un problème énorme pour la région, pour l'Europe et pour les États-Unis. Mais en ce moment, le menace s'est peut-être un peu stabilisé.
Quels sont les points forts et quels sont les points faibles?
Ils n'ont pas pu avancer contre les Kurdes dans le nord de l'Irak. Les points faibles, c'est certainement le fait qu'ils ont eu plus de succès dans les parties de l'Irak sunnites. Et en même temps, le plus grand problème, c'est certainement le fait qu'ils ont s'étalé sur toute la région de l'Afrique du Nord et aussi la région du Sud-Asie. Ça ne reste plus juste un problème au Moyen-Orient, c'est aussi un problème pour tout le monde.
La force de Daesh, c'est aussi ces recrues.
Oui, c'est certain, c'est un gros problème. Ils ont plus que 20 000 recrues du partout dans le monde. La plupart de ces recrues viennent du Moyen-Orient, de l'Afrique. Mais il y a aussi certainement des recrues qui viennent d'Europe et des États-Unis qui nombrent à peu près 4 000. Ça veut dire que ça ne peut pas être uniquement des problèmes économiques, par exemple. Ils ont des recruteurs partout dans le monde et ils utilisent très bien l'Internet.
Alors en face, on a cette coalition conduite par les États-Unis. Où en sont les efforts de cette coalition?
Ils mènent des frappes aériennes et récemment, les États-Unis ont aussi déployé quelques 2, 3, peut-être 4 000 troupes sur le sol irakien. Ils ne se combattent pas eux-mêmes, mais ils aident les Irakis se combattre contre Daesh. Ça a aidé les Irakiens à arrêter l'avance de Daesh, mais ça va être une guerre et une campagne très longue.
Le but ultime de Daesh, c'est d'avoir un califat sur plusieurs pays tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est un vœu complètement irréalisable?
Ils ont maintenant en Irak et Syrie un califat. Est-ce que ça va grandir à inclure aussi l'Afrique du Nord et ses parties d'Asie où ils sont actifs? C'est très inquiétant, mais ce n'est pas imaginable que ça va être global.
Vous dites donc qu'il s'agit bien d'un califat. Est-ce que ça veut dire que l'organisation fonctionne un peu comme un État?
Oui, c'est un peu ça le problème. C'est qu'il y a un État qui existe en ce moment en Syrie et en Irak. Qu'une organisation comme Daesh peut avoir tous les outils d'un État, c'est vraiment inquiétant.
Merci Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Mountou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace.
Un rappel de quelques titres.
Burundi, le pouvoir a organisé des élections législatives et communales sous haute tension, malgré les pressions de l'opposition et les mises en garde de la communauté internationale.
Au Tchad, arrestation de plusieurs membres présumés de Boko Haram, 2 semaines après un double attentat sans précédent à N'Djamena.
Affaire Hissène Habré au Sénégal, plus de 4000 victimes seront parties civiles.
Et grève des médecins du public et du privé au Gabon, un arrêt qui se poursuit depuis plusieurs semaines. Voilà.
Voilà, cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Jonah Cummins à la console, présentation Salwa Jafari et Chérubin Bourse.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.